Le bilan mondial du coronavirus un peu plus grave, 150 000 morts. L'Europe reste le continent le plus touché. Et malgré cela, malgré le décompte macabre, la situation s'améliore. À Mulhouse, l'hôpital militaire a entamé son démantèlement. On en reparle dans une minute. Dans ce journal également, la ville de Nice peut-elle établir un couvre-feu anticipé dans ses quartiers populaires? Le tribunal administratif devra trancher. La Ligue des droits de l'homme porte plainte. C'est, dit-elle, disproportionné. Et puis si vous vous demandiez comment vont les pandas du zoo de Beauval, pas de panique, ils ont de quoi manger. C'est plus compliqué en revanche en matière de trésorerie pour le parc. Selon son directeur, l'impact financier est lourd malgré l'aide promise par l'État, vous l'entendrez.
France Inter. Laura, une lueur d'espoir dans le décompte que l'on fait des personnes malades dans les hôpitaux?
La situation en France semble en effet s'améliorer, du moins dans les hôpitaux. On constate moins de personnes hospitalisées, moins d'accueils en réanimation depuis maintenant 9 jours, au point que l'hôpital militaire de Mulhouse a été réduit d'un tiers, Patrick Janton.
Passage de 30 à 15 lits, la ministre des Armées Florence Parly l'a confirmé. Il ne reste actuellement que 14 patients en réanimation dans cet hôpital de campagne, mis en service le 24 mars, alors que l'hôpital mulhousien était complètement saturé. Le député mulhousien Olivier Becht du groupe Agir, il est membre de la commission de la Défense nationale.
Ce module va être désinfecté, il va être reconditionné et il va être redéployé en Outre-mer, là où actuellement les besoins se font sentir, probablement à Mayotte. La structure va rester, donc le service de santé des armées va rester sur place à Mulhouse pour continuer à soigner les malades. Les tentes qui abritaient ce deuxième module de réanimation vont rester et elles pourront donc accueillir à nouveau des lits et des respirateurs très rapidement si le besoin se faisait sentir.
Une situation qui s'améliore à Mulhouse, mais l'hôpital souligne qu'il a encore besoin de gros renforts, essentiellement des infirmiers et des aides-soignants, alors que le personnel est épuisé et que les arrêts maladie se multiplient.
Patrick Janton. En effet, comme le souligne cet après-midi Olivier Becht, le député UDI Agir du Haut-Rhin, la situation s'améliore, mais la bataille est loin d'être gagnée. Même signe d'amélioration et même combat qui se poursuit dans les EHPAD du Bas-Rhin. Les visites sont de nouveau autorisées, mais sous condition au cas par cas, dans des lieux ouverts, les cours ou les jardins des établissements d'accueil, en respectant des consignes de sécurité strictes. Et on y reviendra plus en longueur dans le journal de 19h. Comme la France il y a quelques semaines, c'est cette situation dans les EHPAD qui inquiète aujourd'hui Londres. Le nombre de décès dans les maisons de retraite du Royaume-Uni serait sous-estimé, de l'ordre de 7500 morts selon Care England, l'organisme représentant le secteur. Le ministre de la Santé Matt Hancock l'admet. Il assure qu'un décompte officiel sera publié très prochainement. Voilà qui devrait gonfler le bilan britannique du virus. 15 464 victimes à ce jour, soit 888 décès supplémentaires par rapport au bilan d'hier. On vous en parlait dans les titres, le bilan mondial s'alourdit. On décompte actuellement plus de 150 000 morts avec deux foyers épidémiques. Les États-Unis d'un côté qui viennent d'ailleurs de voir leurs frontières avec le Canada fermées partiellement un mois de plus selon les annonces du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et puis l'Europe de l'autre côté qui reste le continent le plus touché par l'épidémie. Dans cette Europe endeuillée après l'Italie, c'est à l'Espagne de payer un lourd tribut. Elle a passé la barre des 20 000 morts aujourd'hui. La France, elle, compte 18 600 décès. Autre bilan communiqué aujourd'hui, celui du porte-avions Charles de Gaulle. Selon l'armée française, plus de 1000 marins, 1046 pour être exact, ont été testés positifs au nouveau coronavirus. C'est plus de 60% de l'effectif présent à bord. Une vingtaine de marins sont actuellement hospitalisés. L'un d'entre eux se trouve en réanimation. Les questions demeurent quant à cette propagation épidémique. Le chef d'état-major, le général François Lecointe, sera d'ailleurs notre invité demain matin à 8h20 pour en parler. Le flou persistait. Maintenant, c'est clair, nos grands-pères et grands-mères n'auront pas à rester chez eux après le 11 mai. Emmanuel Macron a tranché. Il n'y aura pas de discrimination vis-à-vis des personnes âgées dans le déconfinement à venir. L'Élysée appelle toutefois à la responsabilité individuelle. Mais avait-elle un autre choix? Pas sûr, explique Romain Gisdolme, le directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Envisager des mesures au regard d'un critère sociologique qui aurait été là, celui de l'âge, aurait été parfaitement discriminatoire. Donc, évidemment, Emmanuel Macron a absolument raison d'éviter cette discrimination-là. pour les personnes les plus vulnérables comme pour les autres, vous savez, toutes ces mesures de santé publique visent à bien informer les gens, bien leur indiquer les recommandations sanitaires, les recommandations qu'il convient de suivre. Et ensuite, c'est à chaque personne de décider pour elle-même les risques qu'elle est prête à prendre ou pas. Et ensuite, ça s'accompagne. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des temps de travailleurs sociaux, des temps de psychologues, etc., etc. Donc, ça veut dire effectivement à la fois informer et à la fois permettre un accompagnement au plus près pour la mise en œuvre des mesures, pour respecter les choix des personnes, qu'elles soient fragilisées ou non.
Romain Gisolme, le directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, il était au micro de Solène Cressin. Demain, d'autres prévisions sont attendues. Édouard Philippe, Olivier Véran feront un point dans l'après-midi sur l'évolution de l'épidémie.
Laura Lavenne, la ville de Nice, bientôt devant le tribunal administratif.
La Ligue des droits de l'homme porte plainte contre la municipalité. Son tort, selon elle, avoir instauré un couvre-feu anticipé dans 9 quartiers populaires. Couvre-feu prévu à 20h contre 23h partout ailleurs dans Nice. Ces quartiers sont accusés par le maire Christian Estrosi de ne pas respecter les règles du confinement. Une mesure disproportionnée selon Patrice Spinozzi, l'avocat de la LDH. Selon lui, cela va à l'encontre des décisions récemment rendues par le Conseil d'État.
Les arrêtés municipaux qui ont été pris à Nice instaurent un couvre-feu qui est plus étendu que celui qui a été pris par le préfet. Donc nous tombons dans des pouvoirs qui sont pour nous disproportionnés des maires, puisque comme nous avons obtenu que le Conseil d'État le consacre, le principe aujourd'hui c'est que les restrictions aux libertés ne peuvent être prises que par l'autorité gouvernementale et certainement pas par les élus locaux. C'est une décision de principe qui a été rendue par le Conseil d'État, qui fixe le cadre du pouvoir de police des élus locaux et qui le limite drastiquement lorsqu'ils interviennent en matière sanitaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce que dit le Conseil d'État et ce que nous cherchons à lui faire dire, c'est que en cette matière, il faut qu'il y ait une politique nationale organisée et que dans ces conditions, les élus locaux ne peuvent pas aggraver les mesures qui auront été décidées par le gouvernement.
Les propos de Patrice Spinozzi, l'avocat de la LDH, à retrouver sur notre site franceinter.fr. 3 personnes arrêtées à Bayonne, elles ont menacé plusieurs infirmières d'un même quartier via des lettres anonymes. Les auteurs demandaient vivement à ces soignantes de quitter leur logement pour, je cite, « ne pas mettre de vie en danger ». Le parquet a demandé des travaux d'intérêt général à l'encontre d'un couple de voisins. Ce couple a reconnu une partie des faits. Un troisième homme sera jugé en juillet. Un budget de crise alourdi, voté cette nuit à l'Assemblée nationale. Il prévoit 110 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Un dispositif de chômage partiel élargi et le financement de masques non sanitaires sont prévus, sans trop diviser jusque-là. Sauf qu'il prévoit aussi une aide plus contestée cette fois, notamment par les associations de défense des animaux. 19 millions d'euros pour venir en aide aux parcs zoologiques, aux cirques accueillant des animaux et aux refuges animaliers. De l'autre côté, cette aide est la bienvenue pour toutes ces structures fermées au public depuis le début du confinement. C'est le cas du zoo de Beauval, bien équipé pour nourrir ses bêtes, mais plus embêté pour faire face à ses dépenses incompressibles, selon Rodolphe Delors, le PDG du zoo de Beauval.
Pour le moment, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement. Les pandas géants, très connus, mangent du bambou. Nous cultivons du bambou chez nous. Nous avons une plantation pas très loin. Nous en faisons venir du sud de la France. Les transports fonctionnent. En revanche, les parcs zoologiques ont des frais colossaux, incompressibles, même en cas de fermeture, parce que toutes nos installations doivent fonctionner de la même façon pour le bien-être de nos pensionnaires. Certains parcs zoologiques qui n'ont pas d'hôtellerie, de restauration ou très peu de boutiques, pratiquement 100% de leurs salariés sont en lien direct avec les animaux. Nous, Beauval, nous avons quand même encore 205 personnes à payer au quotidien. Donc forcément, l'impact financier est lourd. Donc le gouvernement s'engage à verser des aides, des mesures de bon sens, alors que nous sommes au début de la saison touristique.
Ce budget de crise est attendu mardi au Sénat. Puis les communes aussi mettent la main à la poche. Les maires de Belfort, de Valence et de Clermont-Ferrand ont décidé de fournir des masques à leurs habitants. À Belfort, la municipalité a passé commande pour 60 000 masques en tissu lavable et fabriqués dans une usine du territoire. À Valence, 64 000 protections du même type ont été commandées, soit un masque par personne. Ils seront distribués gratuitement fin avril, courant mai.
Dans le reste de l'actualité, Laura, une cinquantaine de réfugiés accueillis en Allemagne.
47 enfants et adolescents non accompagnés qui répondent à un programme européen de relocalisation. Ils sont arrivés à Hanovre, en Basse-Saxe, après avoir vécu dans les camps de réfugiés grecs. Ils vont être placés en quarantaine avant d'être répartis partout en Allemagne.
C'était le journal de Laura Lavaine, il est 18h11. Les couleurs du ciel maintenant, voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Une ambiance plus sereine demain sur les régions de la moitié nord où après un début de matinée sous les grisailles, les éclaircies vont s'imposer, mais le vent de nord-est sera quand même assez sensible près de la Manche. Dans la moitié sud, c'est un dimanche pluvieux qui s'annonce avec des pluies pour le bassin méditerranéen, attisées par un vent de mer plus turbulent dans le golfe du Lion. Plus à l'ouest, le temps orageux, déjà le matin au sud de la Garonne jusqu'au Limousin, va gagner l'après-midi vers la Bretagne et l'Auvergne, avec des températures maximales en hausse du Grand Est à Rhône-Alpes, en baisse sur les régions méridionales et généralement stationnaires dans la moitié nord.